Bienvenue à vous tous, messieurs, dames, à ce premier numéro de Panorama économique pour la nouvelle année 2017 sur Radio Okapi au sommaire. Le collectif des épargnants de la coopérative Saint-François-Xavier de Kikwit sont inquiets pour leurs épargnes. Ils demandent à la Banque centrale du Congo de leur remettre les quelques 400 millions de francs congolais logés dans un compte à l'agence BCC Kikwit. Nous faisons le point de cette situation avec Fabien Kambinzi, qui est notre correspondant à Kikwit dans un instant. Les députés nationaux décrient la non-application de la vérité du taux de change dans le calcul de leurs émoluments. Ces émoluments sont encore calculés au taux de 930 francs congolais, le dollar américain, pendant que sur le marché, le taux de la Banque centrale du Congo est bien supérieur. La RDC lance à travers le CEC sa propre initiative de traçabilité de l'or. L'ITOA va désormais aider à tracer l'or de production artisanale du puits à la commercialisation. Le directeur général adjoint du CEC nous en parle dans ce magazine. Un autre invité de Panorama, c'est Madame Sandra Lukusa. Elle est créatrice de la start-up Mapapaz. Voilà pour les grandes lignes de cette émission. Je vous salue et vous présente mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2017. Bienvenue à Panorama Économique. Je suis Daniel Tambinsoni devant ce micro et à la technique Paul Badenyama.
Panorama Économique, le dossier.
Ouvrons Panorama économique par Kikwit dans la province du Congo. Le collectif des épargnants de la coopérative d'épargne et de crédit Saint-François-Xavier de Kikwit s'inquiète. Les déposants demandent à la Banque centrale de leur restituer près de 400 millions de francs congolais. Ces fonds ont été logés sur ordre des auditeurs de la Banque centrale du Congo dans un compte à l'agence de la BCC Kikwit. Ce collectif d'épargnants dit ne plus avoir la nouvelle de ses dépôts après la liquidation de cette coopérative. Et nous allons retrouver en ligne depuis Kikwit notre confrère Fabien Kambinzi. Fabien, bonjour, vous êtes là avec nous?
Bonjour Daniel Tambinzoni, je suis là.
Dites-nous Fabien, c'est quoi aujourd'hui la situation de la coopérative Saint-François-Xavier après tout ce que nous avons dit au courant de cette semaine sur cette COPEC?
Oui, Daniel, disons tout de suite que la situation reste la même comme au passé. C'est-à-dire, aucune solution n'est jusque-là donnée à ce problème. Ce qui est vrai, Tambinzoni, est qu'aujourd'hui, l'inquiétude persiste parmi ces épargnants qui disent ne plus savoir à qui s'en remettre pour le règlement de cette question. Pour eux, seule la Banque centrale du Congo, BCC, qui peut les aider à récupérer leur argent. Vous avez compris, Daniel Tambinzoni, que ces épargnants de la coopérative Saint-François-Xavier continuent à réclamer les 400 millions de francs congolais à la BCC. Juste un petit rappel, c'est depuis 2010 que la coopérative Saint-François-Xavier enregistre des difficultés de trésorerie au grand étonnement de ses membres. Ceux-ci croient à un détournement de leur épargne par le dirigeant de la coopérative. C'est pourquoi, Daniel, un comité de crise a été mis en place par le membre en vue de faire un état des lieux de la situation réelle de la coopérative. C'est à ce moment précis que ce comité de crise mandaté par les collectifs des épargnants prend la chose en main. Elle a décidé, Daniel, de relancer la coopérative moyennant une seconde mise de fonds sur recommandation de l'ancien gouverneur Jean-Claude Massangou, précise-t-il encore.
Merci bien Fabien, nous allons garder l'œil sur l'évolution de ce dossier dans les prochains jours en tout cas. Merci et bon week-end à Kikwit et à tous ceux qui écoutent Radio Capi maintenant.
Bon week-end mon cher ami Daniel Tambinzoni.
Merci Fabien et nous retournons ici à Kinshasa pour nous rendre au Parlement, plus précisément à la Chambre basse à l'Assemblée nationale donc, pour retrouver Michel Kifindangoy qui nous parle de la grogne des députés nationaux qui décrit une certaine amputation opérée sur leurs émoluments. Certains élus accusent même le bureau de l'Assemblée nationale d'opérer des retenues sur leur indemnité de la session extraordinaire en cours et d'appliquer un taux de change inférieur à celui de la la Banque centrale du Congo. En réaction, le cabinet d'Aubin Minaku, le président de l'Assemblée nationale, explique que le bureau de l'Assemblée nationale n'a jamais imputé quoi que ce soit dans les émoluments des députés nationaux. Le bureau parle plutôt d'une mauvaise communication et invite le ministre des Finances pour des explications appropriées sur les questions d'ordre budgétaire. Michel Kifindangoy.
S'adressant à la presse sous anonymat, certains députés nationaux accusent le président et la questeur de l'Assemblée nationale d'avoir amputé de 30% leurs indemnités de la session extraordinaire en cours. Ils dénoncent aussi l'application d'un taux de 930 francs congolais le dollar, jugé inférieur à celui de la Banque centrale fixé, selon eux, à 1250 francs congolais le dollar. Contacté, le directeur du cabinet d'Aubin Minaku s'est dit indigné par ce qu'il qualifie de campagne politique. Des désinformations nuisibles à l'image de la Chambre basse. Jean-Pierre Liaou précise à cet effet que le taux budgétaire applicable à ce jour est toujours de 930 francs congolais le dollar. Pour lui, le taux évoqué de 1250 francs congolais a bel et bien été envisagé par le gouvernement, mais qui n'a pas été retenu cette fois-ci. Jean-Pierre Liaou souligne par ailleurs qu'à l'occasion de cette paye d'émolument, le gouvernement, fortement préoccupé par la question des flux monétaires sur les marchés financiers internes, avait déjà décidé d'un paiement échelonné en deux tranches pour le Sénat et en trois pour l'Assemblée nationale. Les députés vont donc toucher très incessamment leur troisième tranche, rassure-t-il.
Jeudi, Orange RDC a lancé sa nouvelle marque intitulée Essentiel RDC. C'est une stratégie axée sur la famille, l'argent, le travail, le divertissement et le bon plan. À cette occasion, le directeur général d'Orange RDC a fait le bilan des activités de l'année 2016. Au nombre de principales difficultés rencontrées, Orange cite la difficile opération d'identification des abonnés et la dépréciation du franc congolais qui a fait perdre aux clients au moins 40% de leur pouvoir d'achat. 2016 a aussi été l'année du lancement d'Orange Money et de bien d'autres produits au bénéfice des consommateurs. Le directeur général d'Orange RDC, Jean-Michel Garoutek, explique ici la stratégie essentielle RDC.
Beaucoup de choses restent à faire dans cette fusion et dans cette année 2017. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est justement le lancement de cette nouvelle plateforme de communication, cette nouvelle plateforme de marque qui s'appelle Essentiel RDC. Essentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous voulons nous intéresser à tout ce qui est essentiel pour chacun de nos clients. Tout ce qui est essentiel pour vous, vos familles, votre travail, votre activité personnelle. Et donc, l'approche d'Orange a été de renforcer notre écoute par un dispositif important d'écoute de ce que veulent nos clients, de ce qu'ils attendent, et de leur répondre par des offres adaptées. Typiquement, il y a des offres Internet bien spécifiques qui concernent chaque segment avec des cibles sur le divertissement ou bien l'éducatif ou bien le religieux. Il y a des offres spécialisées. Je crois qu'Orange a été le premier à développer des offres pour les étudiants qu'on appelle Orange School. Et donc ce plan, il est résolument tourné vers l'ensemble de nos clients, dans cette attitude une fois de plus concentrée sur leurs attentes, et c'est pour ça que nous l'avons appelé essentiel. C'est ce plan qu'il va vous être présenté maintenant, et cette promesse, nous l'avons appelée « vous rapprocher de l'essentiel ». Et ça va être toute la tâche que Orange va déployer. La première preuve que je voudrais vous donner d'ailleurs, c'est que nous avons renouvelé notre partenariat avec la Confédération africaine de football pour les 8 prochaines années, et donc nous allons être présents dans ce grand enjeu de la CAN. Nous espérons que les Léopards vont gagner et à ce titre-là, nous allons offrir à 6 de nos clients la possibilité de rejoindre la finale qui se passera au Gabon. Et vous aurez, bien sûr, tout au long de cette période, grâce au service d'Orange, une visibilité sur ce qui va se passer.
Le vice-ministre en charge des PTMTIC présent à cette cérémonie a encouragé Orange après le rachat et la fusion avec Tigo à aller de l'avant. Écoutons à présent le vice-ministre Isidore Oumari.
L'occasion qui nous réunit ce jour est célébrer la consolidation de la fusion du Tigo et Orange. Il a fallu 6 mois pour cette consolidation technique et commerciale. Ce dont je félicite Orange de ce que les services aient été fournis aux usagers sans perturbation majeure. C'est pourquoi je me réjouis de cette opération de fusion soit réalisée avec succès. Je constate que grâce à cette fusion, Orange RDC devient co-leader dans le secteur des télécommunications mobiles en RDC avec 31% de part de marché pour un parc de 9 millions d'abonnés. Aussi, je vous demande de mettre tout en œuvre pour assurer l'identification des abonnés à terme, leur assurer des services de qualité dans le strict respect de la loi et des règles du marché.
Panorama économique sur Radio Okapi, c'est maintenant la deuxième partie de votre émission. Le temps pour nous de recevoir notre première invitée, Madame Sandra Lukusa. Elle est créatrice, je peux encore dire fondatrice de la start-up Mapapas. Ensemble, nous allons découvrir la start-up Mapapas. De quoi s'agit-il? Bonjour Sandra.
Bonjour Daniel, merci beaucoup.
Voilà, vous avez une dénomination un peu particulière, Mapapas. Voulez-vous nous parler d'abord de cette dénomination de votre start-up?
Ok, on va dire que Mapapas est un mot qui veut dire babouche en lingala, langue congolaise de chez nous. Mm-hmm. Alors, pourquoi cette dénomination? On va dire que l'idée même de la création de cette start-up était de faire connaître notre culture congolaise à travers nos créations, c'est-à-dire de faire découvrir aux cultures étrangères la richesse, la beauté et la créativité de notre culture. Alors, on a commencé justement par créer des babouches, donc des mapapas en lingala. Et à travers ces créations, chaque modèle avait un nom particulier se rapportant à un nom congolais, se rapportant à une particularité de
chez
nous.
C'est la première particularité de vos créations.
Exactement.
Donc, chaque produit porte le nom d'un produit congolais.
Exactement.
D'une réalité congolaise.
D'une réalité congolaise, voilà. D'un concept congolais, d'un village.
Elle fait comment ces babouches? Un peu particulière, comment?
Oui, c'est des babouches.
Les distinguer des autres.
C'est des babouches faites entièrement de manière artisanale, donc faites à la main, exclusivement créées et fabriquées en RDC. Mais la particularité, c'est le choix des matières que l'on utilise. Tous les produits utilisés sont locaux.
Comme quoi, par exemple?
On va dire que déjà, le thème même de la babouche, c'est le pagne africain, le pagne congolais, le pagne hollandais aussi, mais qui représente la culture africaine.
Ouais.
Et tous les matériaux annexes qu'ils ont utilisés avec ce pagne sont exclusivement achetés localement à Kinshasa.
Et vous existez comme ça depuis combien de temps?
Cela fait bientôt 3 ans que nous sommes sur le marché.
Et vos produits, l'organisation du marché de votre start-up Mapapas, comment vous l'organisez, le marché?
Pour le moment, nous ne vendons qu'en ligne, exclusivement en ligne, mais à travers notre site internet, lorsque les commandes sont passées, nos clients nous transmettent donc leurs adresses et leurs coordonnées et ils sont livrés dans les jours qui suivent après leur commande.
On peut la connaître, cette adresse email, c'est ce site sur lequel, cette plateforme sur laquelle vous vendez vos produits?
Oui, bien sûr, c'est facile. www.mapapas.com. Mapapas, comme vous l'entendez, M-A-P-A-P-A-S.
C'est une start-up, c'est une nouvelle façon d'entreprendre, c'est comme une petite et moyenne entreprise aujourd'hui dans le langage courant. Mais combien de personnes, nous voulons être un peu curieux, savoir combien de personnes vous employez pour le moment?
Nous employons 8 à 10 personnes, on va dire que nous avons 8 personnes qui sont engagées et 10 saisonniers. Et 2 saisonniers, excusez-moi.
2 saisonniers. Un total de 10, ça fait déjà beaucoup dans le cadre de la réduction de l'oisiveté. Ok, vous donnez de l'emploi aux gens. Et alors, des 3 ans que vous existez, quels sont les gros contacts que vous avez déjà eus, puisque vous êtes sur le net, c'est-à-dire vous êtes ouvert au monde. Est-ce que le monde, le feedback que vous avez de votre ouverture, ça peut être quoi?
Oui, exactement, puisque nous vendons en ligne, c'est par ce biais justement qu'on a pu, on a eu la chance d'être remarqué de manière internationale. On va dire qu'en 2015, on a eu la chance d'avoir été sollicité par le gouvernement américain pour faire partie des 1000 startups qui étaient invitées au Global Entrepreneurship Summit organisé au Kenya par le président Obama. En 2006, nous avons eu l'honneur d'être remarqués par le programme Vogue Talent du magazine Vogue Italie, l'un des plus grands magazines de mode connus sur la Terre, on va dire, afin de présenter notre collection, ce qui nous a permis d'avoir été sélectionnés parmi 8000 créateurs internationaux à faire partie en février prochain de la Fashion Week de New York, Paris et de Londres afin d'y représenter.
C'est que l'affaire marche bien.
La RDC.
L'affaire marche bien.
On va dire que c'est relatif.
Ouais.
On va dire que notre dur labeur a payé question renommée nationale et internationale. Mais vu le but même de la création de cette entreprise, on va dire de cette mini-entreprise.
Justement, hein, justement.
Encore une start-up.
C'est, justement, c'est une façon d'entreprendre, une nouvelle manière d'entreprendre, c'est toujours une entreprise.
Exactement.
Petite soit-elle.
Lorsqu'on aura pu créer la première industrie de création textile et vestimentaire en RDC, à ce moment-là, on pourra dire que l'affaire marche.
Pour le moment, on est encore dans ses débuts.
Oui, c'est encore la phase expérimentale, on va dire.
Mais les premiers pas, ils sont rassurants.
Oui, les petits pas de ma papasse sont assez rassurants. Oui.
Une idée sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé en 3 ans?
Ouh là là, ça reste
c'est
flou.
C'est beaucoup. Mais espérons que les choses vont aller de mieux en mieux.
Espérons
vous,
aussi.
Vous êtes rassurante que ça va devenir grand?
Oui, absolument. J'en suis certaine.
Et c'est toute la chance que nous souhaitons à ma papasse, à moins que vous ayez un dernier mot, sinon on peut s'arrêter là et dire au revoir à ces millions d'auditeurs qui nous écoutent.
Oui, on va leur dire merci de nous avoir encouragés jusque maintenant. On va leur demander de continuer à nous encourager parce que ma papasse organise une cagnotte, une levée de fonds, on va dire, pour pouvoir organiser ce déplacement pour les États-Unis, l'Angleterre et la France afin d'y représenter la RDC. On va dire que toutes les contributions sont les bienvenues, des plus petites aux plus infimes. On va dire que de 1000 francs à 10 000 dollars, si vous en avez, vous pouvez contribuer à notre cagnotte.
Et puisque vous faites cet appel de fonds,
oui.
Comment vous contactez sur place à Kinshasa vos adresses?
Je vais vous donner mon numéro de téléphone.
Ça ne me dérange pas.
Le 084 062 33 53. Notre adresse mail, sandra@mapapas.com. Et vous pouvez aussi vous rendre sur notre page Facebook Mapapas afin de trouver le lien sur lequel vous pouvez aussi faire parvenir vos donations de manière bancaire.
Merci à vous, Sandra Lukusa. Je rappelle à ceux qui nous ont pris en cours que vous êtes la fondatrice et créatrice de Mapapas, qui est une start-up qui se spécialise dans la fabrication de babouches.
Oui.
Essentiellement.
Non,
vous avez commencé par
là. On a commencé par les babouches et on a très vite été rattrapés par d'autres accessoires de mode qui vont avec les babouches, des pochettes, des sacs, des t-shirts. On va un peu dans tous les sens, mais on va dire que la base même de notre start-up, c'est la Mapapas.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et très bonne chance à cette petite entreprise qui est dans ses premiers pas. Et nous lui souhaitons plein de bonnes choses, plein de succès sur le marché de l'emploi et des affaires. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à Radio Okapi.
Merci Sandra et bon week-end.
Panorama économique, matière première.
La RDC se dote de sa première initiative de traçabilité. Il s'agit de l'ITOA, Initiative pour la traçabilité de l'or de l'exploitation artisanale. C'est le directeur général adjoint du Centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC qui le dit à votre radio. L'ITOA est une initiative du gouvernement congolais instituée par l'arrêté ministériel numéro 0918 du 28 octobre 2015. Selon cet arrêté, ITOA a également une vocation internationale en ce qu'elle répond aux exigences et normes du mécanisme de la CIRGL, aux lignes directrices du guide de devoir de diligence de l'OCDE. Pascal Niembo est le DGA du CEC et coordonnateur national de lutte contre la fraude minière. Il est notre deuxième invité. Bonjour, monsieur le directeur général adjoint.
Bonjour.
Vous menez une campagne par rapport à l'ITOA. Brièvement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce processus ITOA?
Bon, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne l'ITOA, c'est que l'État congolais décide enfin de mettre en place une initiative qui va répondre aux soucis et aux attentes de la population, ainsi qu'aux soucis et aux attentes de la communauté internationale en ce qui concerne.
C'est quoi ces attentes?
Ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de la population, et qu'il soit pris en charge par la République en ce qui concerne les sites d'exploitation qui sera d'abord certifié rapidement par les inspecteurs du ministère des Mines, et ensuite l'exploitation de l'or désormais seront prises en charge par l'État congolais tout en donnant l'identification exacte par les biais de l'ITOA. Avec l'ITOA, ce sont des sachets inviolables intelligents où nous allons identifier les creusers, les sites d'exploitation ainsi que la chaîne d'approvisionnement pour permettre à ce que ceux qui vont acheter l'or ne puissent plus avoir de doutes sur la provenance de l'or de la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas que les groupes armés profitent des faiblesses, de l'inexistence de l'initiative, qu'ils viennent contaminer l'or exploité légalement. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler. Et ça, nous avons besoin de l'implication de toute la population. Pour éviter, vous savez que dans l'avenir, ils auront du mal à vendre cet or à l'extérieur lorsque l'or au départ n'est pas tracé et n'est pas pris en charge par le ministère des Mines par le biais de l'ITOA. C'est tout un combat pour aider le peuple à exporter avec toute quiétude, sans beaucoup de difficultés, de sorte que cet or ne soit pas considéré comme l'or des conflits, comme l'or du sang, comme l'or des guerres. Alors avec l'ITOA, votre or sera considéré comme l'or exploité légalement dans votre pays et vous avez droit de vendre comme réserve.
Quels sont les sites d'exploitation que vous visez, que votre démarche vise?
Écoutez, l'ITOA ne vise pas seulement tel ou tel site. L'ITOA, c'est une initiative nationale. C'est l'ensemble des sites d'exploitation de l'or sur l'ensemble de la République. Mais notre site pilote, où nous allons lancer directement les activités avec l'ITOA, c'est d'abord notre site de Matete. Matete, c'est à 30 km de Saramabila. Là, nous sommes dans la province du Maniema. Donc, et puis après, nous allons dégager vers Bukavu, à Twangiza, pour voir les sites autour, en dehors du périmètre accordé par le gouvernement, de manière à ce que les Congolais qui sont à Fizi puissent bénéficier aussi de la présence de l'ITOA sur l'encadrement de l'exploitation de leurs minerais en toute légalité. Donc c'est un travail que nous sommes en train de faire. Il y a des sites, nous allons nous installer à Fizi bientôt. Nous allons ouvrir un très grand bureau à Fizi, justement pour installer l'ITOA sur l'instruction du CEC, de sorte que l'or venant de Fizi ne soit pas considéré comme l'or des groupes armés.
Vous allez bientôt vous installer, ça veut dire que ce n'est pas encore prêt pour maintenant?
Non. Nous sommes à Bukavu, nous sommes un grand bureau, nous sommes même à Twangiza. Eh bien, comment nous encadrons alors l'exportation de Twangiza? Ça, c'est un problème de réhabilitation de nos bureaux et l'installation. C'est-à-dire, quand je parle de l'installation, je fais allusion, il faut installer notre modem, il faut installer des bases, il faut des ordinateurs pour prendre en charge l'ensemble des bases de données, il faut installer un système parce que nous devons fonctionner en réseau avec les autres bureaux qui sont dans la région. C'est tout un travail technique des informaticiens que nous sommes en train de faire déjà. Donc l'ITOA, dans un mois, va devenir une structure ou une initiative de la République par excellence pour répondre aux soucis du peuple dans un mois.
C'est que dans un mois, oui. La RDC se rassurera que tout l'or qui est exploité et qui est commercialisé, oui,
est prise en charge et bien tracée.
Bien sûr. Donc, dans un mois, en 2017 ici, c'est la bonne nouvelle que j'annonce aux opérateurs miniers du secteur de l'or, que si vous voulez acheter l'or en République démocratique du Congo, désormais, il faut venir parce que l'initiative ITOA, l'initiative de la République, du gouvernement de la République, mise en place par le CEC, va bientôt déclencher le mécanisme de prise en charge en impliquant même les chefs traditionnels au niveau des sites d'exploitation. C'est ce qui est grave, parce que les autres initiatives qui viennent de l'extérieur, ce sont des initiatives de blancs qui n'ont qu'une idée sur la culture de la République, mais nous nous mettons en place un cadre pour les recevoir avec leur expertise et notre détermination, notre initiative, notre imagination, ensemble, que l'or de l'exploitation artisanale soit tracé.
Comment ça se passera? Parce que nous savons pour les autres minerais du 3T par exemple, on sait qu'il y a une fiche d'identification qui identifie la marchandise à partir du puits où elle est extraite jusqu'à l'exportation. Ce sera le cas aussi pour l'initiative ITOA.
L'ITOA va plus loin que ça. Les fiches d'identification peuvent disparaître. C'est pourquoi nous avons mis les sachets intelligents. Pour qu'à l'intérieur, avec notre puce, on vous prend en charge. Nous savons à partir de Kinshasa que maintenant là, c'est tel creuseur à tel endroit qui achetait tel colis et qui veut vendre tel colis à tel négociant à tel endroit et qui va emmener ça dans tel comptoir. Donc c'est dans notre base de données. Ça veut dire qu'au niveau de notre sachet, il y a aussi un numéro code qui se trouve dans notre base de données. Donc à chaque fois qu'il y a des achats, il y a nos équipes sur place qui envoient les données au niveau des services centrales et nous prenons en charge.
Et tous les creuseurs artisanaux
seront identifiés, bien sûr. Parce que nous sommes en train de les regrouper en coopérative. C'est notre devoir. C'est notre obligation comme État. Il s'agit ici de l'avenir de nos propres frères. Ce n'est pas un problème, non, c'est un problème de fond où nous devrons travailler pour répondre aux soucis de notre peuple, pour mettre fin à l'insécurité, pour éviter à ce que les groupes armés puissent avoir la capacité d'exporter tranquillement alors que les minerais ne sont pas tracés. Ça veut dire que ceux qui achètent, comme nous sommes en train de travailler en amont et en aval à l'extérieur, à l'OCDE, nous allons présenter aussi l'ITOA pour faire voir l'importance de l'ITOA et que de sorte que ceux qui veulent acheter l'or de la République du Congo puissent tenir compte de l'exigence de la loi de la République et de l'ITOA. Donc ça, c'est notre devoir sacré comme État.
Monsieur le DG, merci.
C'est moi qui vous remercie, cher ami.
Et nous allons terminer par cette nouvelle sur le prix du GoPass revu à la hausse depuis le début du mois de janvier. Ainsi, pour le vol domestique, par exemple, le service de sécurité passe de 3 à 5 dollars américains, celui de la sécurité de 3 à 10 dollars américains et l'embarquement à 20 dollars. Cela porte le total à 35 dollars américains et pour le vol international, le GoPass revient désormais à 58 dollars américains. Selon les informations en notre possession, cette augmentation fait suite aux améliorations effectuées dans les aéroports pour être en mesure de couvrir les charges de maintenance. En effet, la RVA doit maintenir en état de fonctionnalité opérationnel ces nouveaux investissements. Il s'agit notamment des pistes de Goma, de Lubumbashi et de l'aéroport de Ndjilisi à Kinshasa qui sont modernisés, les bus sur le tarmac, les équipements de la tour de contrôle. Et pour le faire, il faut des moyens supplémentaires afin d'amortir les charges de maintenance. Mais à la direction générale de la RVA que nous avons pu contacter, nous apprenons que ce réajustement à la hausse est une proposition qui ne devrait pas encore être mise en application, le temps d'en harmoniser les dispositions pratiques avec les compagnies aériennes. Et c'est la fin de Panorama économique sur votre radio. Prochain rendez-vous le samedi 21 janvier 2017. Tout le plaisir était pour moi de vous tenir compagnie sur Radio Okapi et je vous souhaite de passer un agréable week-end en notre compagnie.